Frères et sœurs, en écoutant cet évangile d'aujourd'hui, je pense que vous êtes tous d'accord sur ce point, que Jésus est à 10 000, enfin je ne sais pas comment dire ça, ou à 100 000, de toute forme de technique de marketing très à la mode. Pour attirer ses disciples à le suivre, vous avez entendu, Jésus n'utilise aucun discours séduisant du genre « exprimez vos caprices et vous serez des dieux, soyez cristallines et ça coulera de source ». Certes, Jésus n'obligera jamais personne de le suivre. Mais pour ceux et celles dont nous faisons partie qui ont fait ce choix de le suivre, franchement, son programme est très exigeant, incompréhensible et d'une clarté quand même sans détour. Je reprends trois points. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa femme, ses enfants, n'est pas digne de moi. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne sera pas mon vrai disciple. Enfin, il conclut en donnant en quelque sorte le coup de grâce. Celui qui ne renonce pas à soi-même ne peut pas non plus être mon disciple. D'où un peu l'humour de Sainte Thérèse. Ce sont des paroles graves, mais enfin bon, ayons un peu d'humour quand même. Sainte Thérèse disait à Jésus, « De la manière que vous traitez vos amis, Seigneur, je comprends que vous n'avez pas beaucoup d'amis. » Au passage, je fais remarquer que selon les évangélistes, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais c'est dans Saint Luc, Jésus ne s'adresse pas seulement aux moines ou aux frères d'Ourscan, là, qui sont derrière moi, ni aux bonnes sœurs, ni non plus aux prêtres. Il s'adresse à chacun d'entre nous d'une certaine manière, qui sommes appelés à être des disciples. Je vous propose donc d'essayer modestement d'apporter un peu de lumière ce matin, sans que ce soit le carême. Alors, préférez Jésus, le préférer même à ceux et celles qui nous sont les plus chers. Vous avez entendu, hein? Alors, loin d'être jaloux, j'en suis sûr, loin d'être jaloux de l'amour pour nos proches, Jésus n'a aucune jalousie en ce sens-là. Vous voyez, c'est pas croire que si on aime plus Jésus, on va aimer moins nos proches. C'est une tentation qui nous habite. Jésus veut juste rappeler ici, c'est une façon de parler, que si tous nos amours les plus légitimes que Jésus encourage, bien sûr, rappelez-vous le quatrième commandement par rapport à nos parents, mais s'ils ne sont pas guidés, éclairés par la parole de Jésus, dimanche après dimanche, au moins un peu. Et bientôt ou tard, et on voit très bien, vont s'introduire dans nos relations des sortes de désordres que nous subissons tous un peu. L'indifférence, la jalousie, les comparaisons, la rivalité. Vous voyez, avec humour, j'aime bien dire que si ce n'est pas derrière Jésus que nous marchons, ceux et celles derrière qui nous marchons alors risque très vite et inévitablement de nous marcher dessus. Par exemple, excusez-moi pour les mamans, mais c'est vrai pour les frères, hein. Si une maman dit toujours avec beaucoup de conviction « Oh, mes enfants, vous êtes vraiment tout pour moi, tout pour moi », c'est bien. Eh bien, vous pouvez être sûr que ces enfants-là, ça peut arriver très vite qu'elles risquent de se faire, comment dire, ce sont les enfants qui vont la faire marcher ou voir la faire courir. Marcher derrière Jésus, frères et sœurs, sans que rien ni personne ne se mette entre lui et nous, c'est pas évident, mais c'est une grâce que nous pouvons demander. C'est remettre Jésus à sa première place, au cœur de toutes nos relations. Et si vous vivez de cette grâce-là, naîtra une joie. C'est de la joie dans ses paroles, c'est une bonne nouvelle toujours que Jésus annonce. Et on peut au moins découvrir deux cadeaux précieux dans notre vie relationnelle. Premièrement, si nous mettons Jésus vraiment en premier, nous évitons toutes les conséquences fâcheuses de l'idolâtrie. Enfin, l'idolâtrie, c'est quand même très présent dans l'Ancien Testament, notamment. Telles les conséquences qui vont être comme la tromperie, l'amour fusionnel, les addictions, enfin, toutes ces choses-là, vous voyez. Jésus veut nous en préserver. Et en même temps, il va nous pousser à expérimenter la vraie liberté dont Saint Paul en parle dans la deuxième lecture, celle des enfants de Dieu, que nous désirons tous et que Dieu nous donne et que nous pouvons expérimenter jour après jour si nous le voulons. Voyez Élisée dans la première lecture, quelle liberté de ce prophète. Ça c'est pour la première parole. Deuxième exigence, prendre sa croix. Bon, là, faisons très attention, vous êtes plus ou moins d'accord avec moi, mais il y a des contresens qui peuvent quelquefois nous habiter. Prendre sa croix ne signifie pas souffrir à tout prix ou à aimer la souffrance ou que c'est la souffrance qui nous sauve en tant que souffrance. Non. Ça veut dire qu'il faut apprendre à aimer toujours le mieux possible avec Jésus en toutes circonstances, surtout quand ça va mal. Ça, c'est pas évident. Mais toujours d'abord l'amour. Pour mieux vous faire comprendre ceci, vous remplacez la lettre R dans croix, hein, C-R-O-X, vous mettez la lettre H, choix, choix. C'est le choix, la croix, c'est choisir Jésus. Choisir Jésus qui est passé par la croix, par la mort pour nous ressusciter et qui nous rend capable, si nous le choisissons, d'entrer dans son choix. Vous voyez, c'est apprendre avec lui, de traverser bien sûr les moments les plus heureux de notre vie avec lui, évidemment, mais aussi quand ça va pas trop bien, quand c'est dur. Il faut se faire aider, mais Jésus est là, toujours. Un amour plus grand que tout. Donc ça veut dire que si dans la foi, frères et sœurs, c'est un choix, c'est pas que des sentiments, même si les sentiments c'est très bon, mais c'est dans la foi. J'apprends à rebondir dans cet amour-là de Jésus. Normalement, progressivement, nous le faisons peut-être déjà cette expérience, tous les amours les plus humains, les plus affectifs, les plus forts, les plus absolus que nous cherchons, voire tous nos amours les plus ratés, j'ose le dire, nos échecs, y trouveront leur accomplissement, y trouveront une fécondité éternelle que Dieu donne déjà aujourd'hui. Enfin, troisième exigence, troisième bonne nouvelle, en quelque sorte, qui résume les deux autres, renoncer à soi-même. Super programme. Formulé ainsi, on a envie de dire à Jésus qu'il pousse un peu le bouchon un peu trop loin. Quand même, renoncer à soi-même, que de contresens que nous pourrions faire. Alors juste, je ne vais pas développer, juste pour comprendre positivement cette parole, me vient à l'esprit l'image d'un chien, un chien attaché avec une corde et qui aime, qui adore son maître. Forcément, en voyant son maître partir au loin, il va essayer de le suivre. Mais inévitablement, attaché à ce poteau, attaché à soi-même, ça va l'empêcher. Tous nos attachements qui nous empêche de suivre le maître. Pour nous, Jésus ne veut pas de ce scénario-là. Alors pour ceux qui connaissent bien Toda de la maison, vous voyez plutôt sa joie, la joie de Toda, notre chien, qui suit les frères pendant la prière du chapelet. Heureusement qu'il n'est pas attaché. Je termine par un auteur inconnu qui dit « Il se peut que nous soyons encore trop attaché à tel ou tel proche. » Voilà. Qui peut dire qu'il n'est pas vraiment un peu trop attaché? Cependant, gardons toujours à l'esprit et dans la prière que le lâcher prise n'est pas la fin du monde. C'est justement le commencement d'une vie nouvelle possible. Voilà. Vous allez me dire, ok, tout ça c'est beau, ce sont des belles paroles. Mais ça reste quand même largement au-dessus de mes forces. Je dirais que oui, je dirais que non. Voyez comment Jésus nous laisse un bel exemple de mise en pratique très accessible, si vous avez bien entendu. Celui qui donne à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, il en recevra au centuple. Donc ça va. C'est accessible, non? De quoi nous y entraîner un peu, tout simplement, durant ces temps de vacances. Vous pouvez prendre un verre de bière fraîche hein, ou de cidre, ce sera encore mieux. Vous pourrez jouer vos proches et profiter aussi du Seigneur au cœur de vos vies. Amen.